contre les M23 dans le Rutshuru au nord Kivu. Les FARDC poursuivent leur opération, situation qui crée la panique au sein de la population locale, mais l'armée rassure. Paralysie des activités judiciaires dans le sud Ubangi, voici environ 3 mois. En cause, l'absence des juges qui auraient déserté. Du coup, les dossiers s'accumulent au parquet, dénoncent les avocats renvoyés au chômage. Santé, des cas suspects de rougeole signalés dans la province du Sankuru. Toutefois, en attendant le résultat du laboratoire, la division provinciale de la santé dit avoir pris des dispositions pour éviter la propagation. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu où les FARDC poursuivent leur offensive contre le M23 dans le territoire de Rutshuru. Du côté de la population, c'est la panique, mais les FARDC rassurent ceux qui habitent la région où les opérations militaires sont menées. Des précisions nous l'aurons avec Gisèle Cage dans un instant. En attendant, notez que l'Institut de recherche en droits humains, IRDH, demande au procureur de la CPI d'ouvrir une enquête sur les tueries de Mwanza Lomba dans le Kasaï central. Selon la lettre de cet institut adressée à la CPI, la vidéo Oyo Akufite qui fait le tour du monde montre la gravité des faits et que le gouvernement congolais n'a pas la volonté de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites. Pour Hubert Chiswaka, président de l'IRDH, il s'agit simplement d'une pression exercée sur la CPI pour mener des investigations, étant donné qu'un individu ou une ONG n'a pas qualité à saisir la Cour pénale internationale. Patrick Tchiboui, chargé de sensibilisation à l'unité de la CPI à Kinshasa, explique la procédure de saisine devant la Cour. Il est joint par Jeff Ngoy.
Ce qu'il faut retenir, c'est que le statut de Rome de la Cour pénale internationale ne prévoit que 3 modes de saisine de la CPI, ou 3 moyens pour qu'une situation soit déférée au procureur de la Cour pénale internationale. Premièrement, cette possibilité est reconnue aux États parties, c'est-à-dire qu'un État parti au statut de Rome peut demander au procureur de mener une enquête. Deuxième possibilité, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut également déférer une situation au procureur, et ça, si le Conseil de sécurité décide de saisir le procureur, il le ferait sur base du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Troisième possibilité, le procureur lui-même peut ouvrir une enquête de sa propre initiative. Et si le procureur décide d'ouvrir une enquête de sa propre initiative, dans ce cas spécifique, il doit obtenir l'autorisation des juges de la Chambre préliminaire. Donc les individus et les ONG ne peuvent pas déférer une situation au procureur, ne peuvent pas saisir le procureur de la Cour pénale internationale, mais peuvent envoyer des informations.
Et justement, au sujet de la vidéo évoquée si haut, les États-Unis et la France demandent au gouvernement congolais de diligenter une enquête sur cette vidéo qui met en cause des éléments FARDC perpétrant un massacre des civils dans la province du Kasaï central. Les deux pays s'expriment dans 2 communiqués de presse séparés, datés du 19 février 2017 pour les Américains et du 20 février pour les Français. Selon Romain Nadal, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, la vidéo diffusée sur Internet samedi montre des membres présumé des forces armées de la RDC se livrant à des exécutions extrajudiciaires contre la population civile, y compris des femmes et des enfants dans la région du Kasaï au centre du pays. En réaction, le gouvernement congolais invite ses partenaires de cesser de promouvoir des attitudes condescendantes et ou délibérément malveillantes vis-à-vis des institutions de la RDC qui s'emploient à consolider un état de droit. Les détails avec Noëlla Luzitukabambi.
Nous exhortons les autorités congolaises à faire au plus vite la lumière sur ces agissements inacceptables et à identifier les responsables qui devront répondre de leurs actes, indique la France dans son communiqué. D'après la même source, la France condamne les violences meurtrières dans cette région et appelle les autorités et l'armée congolaise à assumer leur responsabilité première de protection des populations civiles dans le plein respect des droits de l'homme. De leur côté, les États-Unis se disent profondément préoccupés par les images qui semblent montrer des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo exécutant des civils sommairement, y compris des femmes et des enfants. Si ces exécutions extrajudiciaires se confirmaient, elles constitueraient des violations flagrantes de droits de l'homme, pouvant donner lieu à des violences et à une instabilité généralisée dans un pays déjà fragile, affirme Mark Turner, porte-parole du département d'État américain. Washington appelle le gouvernement de la République démocratique du Congo à lancer une enquête immédiate et approfondie en collaboration avec les organisations internationales chargées de surveiller et les droits de l'homme afin d'identifier les personnes qui ont commis ces exactions odieuses et de tenir pour responsable tout individu coupable d'y avoir participé. Le gouvernement congolais réagit dans deux communiqués de presse datés respectivement du 18 et 20 février, appuyés par un avis d'experts intitulé « Manipulation d'images de Timbulu » par l'internaute Richard Mudoza de Bruxelles. Dans le communiqué de lundi 20 février, le porte-parole du gouvernement écrit, je cite, « À propos des prétendues exécutions extrajudiciaires alléguées dans ces images d'amateurs anonymes, il ne revient donc pas à la RDC de prouver l'innocence des FARDC qui auraient aussi paradoxalement signé de tels crimes. Il appartient aux accusateurs jusque-là inconnus de prouver ces faits afin que tous les éléments incriminés en répondent conformément à la loi. » Fin de citation.
Retournons au Nord Kivu, je vous le disais tantôt, nous parlons de l'offensive des FARDC contre les M23 dans le territoire de Rutshuru. Du côté de la population, c'est la panique. Gisèle Cage, vous êtes en ligne depuis Goma, qu'en est-il?
Oui, l'inquiétude gagne certaines populations de Rutshuru qui ont vécu les atrocités du M23 entre 2012 et 2013. L'armée arrivera-t-elle à chasser ces combattants qui sont de plus en plus visibles dans certaines régions de Rutshuru? Se demandent certains habitants bientôt ce mardi à Rutshuru. Mais l'état-major commandement Sokola 2 à Goma brassure, nous ne permettrons pas que le M23 se réorganise sur le territoire congolais. Et c'est depuis hier que les forces armées de la RDC pourchassent les combattants du M23 dans le groupement de Diomba, Bouraï et Kisigari. Hier, d'autres échanges de tirs étaient entendus entre Tamugenga et Matebe, à 2 km de Bunagana, à la frontière avec l'Ouganda. L'armée dit avoir tué un combattant et capturé un autre lors de cette offensive. Le service de sécurité à Rutshuru indique que plusieurs combattants du M23 sont actuellement dispersés dans la région. D'autres sources expliquent que le M23 chercherait notamment à atteindre le territoire de Massissi pour s'y ravitailler en armes et munitions. Elles seront certainement prisées dans plusieurs caches d'armes laissées par l'ex-rébellion du Congrès national pour la défense du peuple CNDP du général déchu Laurent Kunda. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, paralysie totale de l'appareil judiciaire dans le sud Ubangi. Depuis novembre dernier, ni le tribunal de grande instance de Gemena, ni les tribunaux de paix des quatre territoires de la ville des Zongo ne siègent, faute des juges qui ont déserté leur poste d'affectation. Les dossiers des détenus et des personnes qui demandent justice s'accumulent au parquet, une situation que dénoncent les avocats renvoyés au chômage. Entre-temps, le directeur de la prison déplore l'évasion des détenus dans son établissement en délabrement avancé. Dominique Colombie.
Du tribunal de grande instance de Gemena, seul le président de cette juridiction est à son poste. Les autres juges qui ont prétexté à aller passer leurs vacances de fin d'année à Kinshasa ont déserté leur poste. Chaque année, c'est la même situation, dénonce maître Nefi Mopila, l'un des avocats de Gemena, réduit au chômage. Lui et ses collègues se plaignent des dossiers de leurs clients qui s'accumulent et qu'ils ne peuvent défendre au tribunal faute de juges. Ces juges déserteurs, tant du tribunal de grande instance que des tribunaux de paix, viennent pour la plupart d'ailleurs, confirme le président du TGI de Gemena. Les avocats à chômage demandent aux instances supérieures de recruter des nouveaux juges parmi les avocats locaux plus expérimentés pour mettre fin à ces dysfonctionnements. Entre-temps, à Zongo, le directeur de la prison, Willy Bobé, déplore les évasions à répétition des détenus non jugés qui profitent de cette situation pour organiser leurs escapades. Dans cette ville, aucun juge du tribunal de paix n'est à poste, dit-il. Son établissement, construit en 1951 et dont les murs sont fissurés, n'offre plus de garanties de sécurité. La dernière évasion en date a eu lieu la semaine dernière. 7 détenus, parmi lesquels 2 réfugiés centrafricains poursuivis pour viol, ont réussi à prendre le large. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans les nouvelles provinces de l'ex-Bandundu, les prisons de Bandunduville, Bulungu, Kenge et Kikwit sont confrontées ces jours à un manque criant de nourriture et de médicaments. Les responsables de ces maisons carcérales qui font état de cette situation dramatique craignent l'apparition de certaines maladies avec cas de décès par exemple et redoutent également des cas d'évasion des détenus. Fabien Kambindi.
La plupart des prisonniers se trouvant dans ces différentes maisons carcérales présentent de mauvais signes de santé. Ils ne se nourrissent pas régulièrement et attendent occasionnellement la nourriture venant des groupes de prière, des églises ou des personnes de bonne volonté, précisent certains directeurs de ces prisons. Pour ce qui est des soins de santé, la situation est la même. Les prisons de Kikwit et de Bandunduville disposent des infirmeries, mais ne sont pas approvisionnées en médicaments, tandis qu'à Bulungu et à Kenge, il n'en existe pas. Du côté ses capacités d'accueil, il faut signaler ici que la prison de Bandundu-Ville héberge actuellement 365 détenus pour une capacité de 250 détenus, Kenge 123 détenus pour une capacité de 35 détenus, Kikwit 356 détenus sur 1000, prison en état de vétusté très avancée. Boulungu, cependant, est sans prison et les détenus sont coincés dans des petits cachots. Il est noté que la plupart de ces détenus passent de longs mois sans être jugés. Les directeurs de ces prisons qui font état de cette situation appellent le gouvernement central de Kinshasa à prendre ses responsabilités dans l'approvisionnement de ces prisons en nourriture et médicaments. Kikwit, Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Direction la province du Sankuru, quelques cas suspects de rougeole sont signalés dans certaines zones de santé, singulièrement à la limite avec la province du Maniema. Des échantillons sont envoyés à l'analyse au laboratoire pour confirmation, mais déjà la division provinciale de la santé prend toutes les dispositions pour la prise en charge des enfants malades afin d'éviter la propagation. C'est ce qu'indique le docteur Placide Ouello, chef de la division provinciale de la santé au Sankuru. Il est joint par Chris Mukand.
Il y a eu quand même quelques cas suspects de rougeole dans certaines zones comme Panyamutombo et dans une mine de diamants du côté de l'aire de santé de Chitumwashi. On a demandé aux zones de faire les prélèvements pour qu'on puisse voir comment confirmer s'il s'agit de varicelle ou ce sont des cas de rougeole. Il y a également Lusambo qui a notifié deux cas. Il y a Katakokombe et Wembonyama, quelques cas autour des aires de santé qui font frontière avec les Kibombo, parce que vous savez qu'il y avait des cas déjà de rougeole au niveau du Maniema qui était confirmé. Donc avec le mouvement de la population, on a eu avant la campagne de déceler quelques cas et pendant la campagne il y a encore quelques cas suspects qu'on est en train de trouver. Les cas qui sont déjà jusque-là détectés, on a fait des nécessaires pour que la prise en charge de ces enfants soit faite.
Santé toujours, dans la province du Bazouélé, plus de 180 cas suspects de choléra ont été enregistrés en l'espace de 3 semaines, dont 6 décès dans la zone de santé de Akéti. Selon le chef de division de la santé, 4 des 5 échantillons prélevés pour analyse à Kisangani confirment déjà l'existence du choléra. Les mêmes spécimens ont été envoyés pour confirmation au laboratoire de référence de l'INERBE ici à Kinshasa. En attendant, selon Dr Moussa, qui s'est rendu le week-end dans la zone affectée, les dispositions sont prises avec les partenaires, notamment le MSF suisse et l'OMS, pour lutter contre cette épidémie. Écoutez le chef de division provinciale de la santé du Bazouélé, Dr Moussa Kiele, au micro de Godlive Omondo.
Nous avons déjà enregistré 186 cas avec 6 décès. Et sur le terrain, nous avions déjà organisé la prise en charge avec l'équipe du centre de santé. Et après, il y a eu l'intervention du gouvernement provincial qui a rendu disponible des litres de sérum Ringer et aussi un kit de prise en charge qui nous a été rendu disponible par l'OMS. Nous avons briefé l'équipe du centre de santé sur le protocole de prise en charge de choléra. En ce qui concerne le choléra, s'il n'y a pas de mesures préventives, la maladie va s'étendre dans d'autres villages, d'autres aires de santé. Et c'est comme ça que nous avons commencé la sensibilisation de la communauté par les crieurs et aussi par la radio communautaire de Akéti qui couvre également Bundoki. Le partenaire MSF est descendu à Bouta, Akéti puis Bundoki à la rescousse de la population. Il est là depuis 3 jours. Il est en train d'organiser le centre de traitement de choléra à Bundoki Centre.
Kalemi, à présent, pour terminer, les commerçants du marché Katanga Kivu n'ont pas ouvert hier. Ils protestaient contre le vol perpétré samedi soir par une quinzaine d'hommes lourdement armés de fusils. D'après le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Tanganyika, ces hommes ont tiré pendant plus d'une heure sans qu'il y ait une intervention. Les bandits ont emporté 100 000 dollars en liquide, une importante quantité d'or et d'autres biens de valeur, indique le président de la FEC Tanganyika, Félicien Massimango.
Vous savez, Katanga Kivu, c'est le grand marché. Là, il y a ce qu'on appelle escale. Et dans l'escale, c'est là où se trouvent les dépôts et tous ceux qui font Bukavu, Tanganyika. Ils sont là. Alors, la nuit du samedi, vers 19h, des assaillants, des hommes lourdement armés, sont entrés plus ou moins 15 à l'intérieur, et à l'extérieur, ils ont entouré tout cet endroit, ils ont tiré, et ils ont tout pillé à l'intérieur. Une somme d'argent en dollars, en réseau, plus de 100 000 dollars, avec des biens de valeur, de l'or, tout ce qui était là a été pillé. Et ces gens ont opéré pendant 1h20, sans intervention. Alors nous sommes allés chez le ministre de l'Intérieur, lui faire rapport de ça, lui demander qu'on nous sécurise nos opérations économiques avec nos biens.
A noter que les propos du président de la FEC Tanganyika ont été recueillis par Expedi Mwambamubi, et le ministre provincial de l'Intérieur a rencontré une délégation des opérateurs économiques hier dans l'après-midi à ce sujet justement. Il se serait engagé à sécuriser les opérateurs économiques et leurs biens. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que les activités ont repris ce mardi au marché Katanga Kivu, nous fait savoir le numéro 1 de la FEC Tanganyika, et je vous signale que ce marché est animé à plus ou moins 80% par des commerçants originaires du Sud Kivu. Merci de continuer à nous suivre. On va passer à présent à l'actualité en dehors de nos frontières.
Okapi Radio. Okapi. Actualité internationale.
Pour commencer, notez que Trump nomme un général en exercice à la tête du Conseil de sécurité nationale. Nous sommes bien aux États-Unis. McMaster, vétéran d'Irak et d'Afghanistan, a été choisi pour occuper le poste de conseiller à la sécurité nationale après une difficile recherche qui a tenu Washington en haleine. Le président américain a annoncé cette nomination hier devant les journalistes dans sa résidence en Floride, espérant mettre un terme à un feuilleton qui a vu la démission de son premier choix, Michael Flynn, et le refus de son second, Robert Howard. Entre-temps, le vice-président américain était à Bruxelles hier, où il a rencontré la chef de la diplomatie européenne, le président du Conseil européen et celui de la Commission européenne avant de se rendre à l'OTAN. Objectif, rassurer ses partenaires européens sur le futur de la relation transatlantique. L'ambassadeur de la Russie aux Nations Unies, Vitali Tchoukin, est mort subitement hier à New York. Le diplomate russe était en première ligne ces dernières années pour défendre la politique de Moscou, notamment en Ukraine et en Syrie. Et puis, pour la première fois, le gouvernement du Soudan du Sud a déclaré l'état de famine dans plusieurs zones du pays, une situation que les agences humanitaires déplorent, d'autant plus qu'elle est causée par l'homme, à savoir par la guerre qui ravage le pays depuis plus de 3 ans. Et pour terminer, en Côte d'Ivoire, le procès des disparus du Novotel doit s'ouvrir aujourd'hui. L'audience prévue il y a 3 semaines avait alors été reportée. 10 hommes, pour la plupart des militaires fidèles à Laurent Gbagbo pendant la crise post-électorale, sont attendus dans le box des accusés. Ils sont inculpés pour l'enlèvement et l'assassinat de 4 hommes, parmi eux Stéphane Diripel, le directeur du Novotel, et Yves Lamblin, le patron de la plus grande entreprise du pays, ainsi que 2 de ses collaborateurs. Voilà tout pour la synthèse de l'actualité en dehors de nos frontières. Place au sport à présent avec Christian Mulumba Kalumba.
Bonjour, les équipes congolaises engagées en compétition interclub de la CAF connaissent désormais leurs adversaires des 16e de finale. L'ASV Club affrontera Port Authority de Gambie. Les Dauphins Noirs de Kinshasa iront à Banjul pour commencer au cours du week-end du 11, 12 et 13 mars. Les équipes se retrouveront une semaine plus tard dans la capitale congolaise pour le retour. Si V Club a éliminé Royal Léopard de Swaziland avec 2 victoires lors de 2 confrontations, Port Authority a lui validé son billet pour les 16e en écartant à la surprise générale, c'est au sport de Côte d'Ivoire. Après s'être imposé 1-0 à domicile, les Gambiens ont obtenu leur qualification à l'extérieur grâce au nul blanc de 0-0. Le tout-puissant Mazembe, lui, se mettra à l'heure de Caps United du Zimbabwe. Exempté du tour préliminaire, les Corbeaux joueront leur match aller le dimanche 12 mars à Lubumbashi. La manche tour est programmée pour une semaine plus tard au Rufiro Stadium d'Aré, stade capable de recevoir 35 000 spectateurs. Thierry Froger, le tout nouvel entraîneur des Corbeaux de Lubumbashi, a été présenté au public ce matin. C'était au temple des Badianguena dans la commune de Kamalondo. Le deuxième vice-président Mohamed Kamonya demande demandé aux supporters des Noirs et Blancs de lui apporter leur soutien. Après sa présentation, Thierry Froget a rencontré la presse. Il leur a parlé de ses objectifs et aussi des défis. Thierry Froget est au micro de Karine Topé-Ridassi de Lubumbashi.
L'objectif, en fait, le grand objectif, c'est de gagner un titre. C'est obligatoire quand on est à Mazembe. Mais le petit objectif, c'est surtout de bien rentrer dans la compétition de la CAF, de 12. Et donc, préparer ce match, c'est déjà faire des bons matchs, le prochain match. Il faut être en progression et il faut être prêt. Je crois que quand on accepte un défi, quand on dit oui, on est prêt. Là où j'ai pu vérifier entre le match et les entraînements, c'est qu'il va nous falloir du temps. Parce qu'il y a des joueurs qui sont partis, il faut les remplacer par des jeunes joueurs, des joueurs qui jouaient un peu moins.